Voilà. Allons d'abord dans la présence du Seigneur pour invoquer sa grâce, toujours nécessaire et toujours suffisante. Notre bon Père céleste, notre Dieu, tu as une parole pour nous aujourd'hui. Tu as une parole pour nous pour l'instant présent, qui va nous aider à vivre l'instant d'après. On te prie de nous accorder ta grâce, tes bienfaits, ton onction, afin que cette parole soit transformatrice. On ne veut pas être informé uniquement, on veut être transformé par ta parole, en l'image du Seigneur Jésus-Christ, pour la gloire du Dieu trois fois saint. Amen. Bien-aimés, je ne vous apprendrai certainement rien si je vous dis que nous vivons dans des temps de grande confusion, et cela à tous les niveaux de notre société. Si vous suivez minimalement les nouvelles, n'est-ce pas, on se dit, est-ce qu'on peut aller encore un peu plus bas? Et le lendemain, on réussit à y aller. C'est assez extraordinaire. On vit vraiment des temps de très, très grande confusion à tous les niveaux. Et même, tristement, souvent de fois dans l'Église. On entend théorie sur théorie, discours sur discours, drapé dans des propos absolument abracadabra. Il fut un temps où nous vivions, comme on disait dans mon lac Saint-Jean natal, et j'imagine qu'on le disait aussi à Montréal, on vivait sur le gros bon sens. Hein, on disait, il ne comprend pas même le gros bon sens. Le gros bon sens, c'est ce qu'il y avait du bon sens. Hein, il y avait quelque chose qui avait du bon sens, le gros bon sens, qui reposait en grande partie sur les valeurs qui nous étaient communes, et ces valeurs-là, à l'époque, rappelons-le, reposaient quand même sur notre foi à l'époque catholique, qui est quand même une faction du christianisme. Cependant, le gros bon sens s'est mis à la diète. Une diète efficace, il a perdu beaucoup de poids. Un point tel qui est devenu maintenant méconnaissable. Le gros bon sens s'est mis à la diète de l'évacuation des valeurs judéo-chrétiennes avec la venue de la postmodernité, l'intronisation de l'individualisme. Le gros bon sens s'est fait défigurer. Le gros bon sens, en bout de ligne, ce n'était rien de moins que ce qu'on appelle aujourd'hui la sagesse, ou ce qu'on devrait appeler la sagesse. Et ce n'est pas donné à l'homme, comme on le disait un peu plus tôt, de définir ce qu'est la sagesse, n'est-ce pas, puisque nous sommes des créatures analogiques. Qu'est-ce que ça veut dire, que nous sommes des créatures analogiques? Ça veut dire que nous ne sommes pas des originaux, nous sommes des images. Et quel est le rôle d'une image, sinon que de refléter aussi fidèlement que possible l'original? Alors, nous avons été créés à l'image de Dieu et nous sommes appelés à refléter ce qu'il est. L'homme pécheur est devenu une bien piètre caricature du Dieu infiniment saint. Donc, nous sommes des créatures analogiques. Il y a une pensée qui nous est très chère en théologie qui dit « Pensez les pensées de Dieu après lui ». Pensez les pensées de Dieu en harmonie avec Dieu, mais on les pense après lui. On n'a pas une exactitude de contenu parce que, d'abord, on n'est pas Dieu et on est encore pécheur. On pense les pensées de Dieu après lui. Quand on pense les pensées de Dieu après lui, on pense correctement. Mais quand on veut penser nos propres pensées, lorsqu'on se définit comme un original, on vient de prendre le champ. 1 Corinthiens nous dit, 1 Corinthiens chapitre 1, versets 19 à 26, « Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse, nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Il n'y a personne qui cherche la parole ici. Les Juifs cherchent des miracles, et les Grecs cherchent leur gargarisme philosophique. Mais il n'y a personne qui est en recherche de quelque chose qui les élève au-dessus de la raison humaine. Et c'est bien le message du texte que nous allons considérer aujourd'hui. Un texte qui établit un contraste évident. Un contraste évident, donc, entre la sagesse d'en haut et la sagesse d'en bas. Et c'est le titre de mon message. La sagesse d'en haut et la sagesse d'en bas, un contraste. Et nous allons, pour ce faire, retourner dans l'Épître de Jacques. En fait, nous allons continuer notre méditation de l'Épître de Jacques, comme nous l'avions fait, vous vous en souviendrez. La dernière fois que je suis venu, nous étions dans Jacques 3, 1 à 12. Ce matin, nous serons dans, cet après-midi, je dis bien, nous serons dans Jacques 3, versets 13 à 18. Je lis également dans la seconde, dans la Genève. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, vous ne glorifiez pas, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité, pardon. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre de toutes sortes de mauvaises actions et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut, elle est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. C'est un texte qui parle fort, n'est-ce pas? Quand on regarde la description de ce qu'est la sagesse, ça parle fort. Il y a toutes sortes d'événements qui reviennent à notre esprit où on dit « Wow, j'étais pas mal loin du modèle, hein? J'étais loin de ce statut-là. » Lorsqu'on traite de la sagesse, la Bible a tellement à dire. Je suis très, très heureux d'être un tenant de la prédication expositoire, c'est-à-dire qu'on expose la parole à partir d'un texte et non pas de manière thématique où on voit tout ce que la parole a à dire sur un thème. Parce qu'il y en a tellement à dire, n'est-ce pas, sur la sagesse qu'on n'en finirait plus. Alors nous allons nous concentrer ce soir, cet après-midi, uniquement sur ces quelques versets-là. Et je vous propose trois avenues d'approche pour la sagesse de ce texte-là. Premièrement, le contraste dans la source de la sagesse. Deuxièmement, le contraste dans l'opération. Et troisièmement, le contraste dans la résultante, dans les résultats de cette sagesse-là. Premièrement, donc, le contraste dans la source. Comment donc puis-je savoir s'il y a de la sagesse, s'il y a une vraie sagesse dans mon cœur? C'est plutôt rare de trouver des gens qui vont vous dire « Moi, je suis un idiot, moi, je suis un taré. » Généralement, les gens se considèrent comme brillants, sages, généralement un peu supérieurs aux autres, de sorte que leur opinion est toujours meilleure que celle des autres. Donc, la question de Jacques nous amène à réfléchir. Jean, en quelque sorte, est en train de nous dire « Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Montre-moi que tu es sage et intelligent. » C'est intéressant qu'on ait le mot « intelligent » ici, « épistémé », qui est un apax legomène, pour ceux qui s'intéressent. Apax legomène veut dire que c'est le mot apparaît une seule fois dans le Nouveau Testament. Alors, c'est une seule apparition, donc, dans le Nouveau Testament. Et le mot fait référence à la connaissance spécialisée d'un professionnel ou d'un commerçant. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que Jacques utilise les deux mots ensemble, « sage » et « intelligent ». La sagesse, c'est donc pas uniquement une connaissance spéculative, mais c'est l'application méticuleuse de la connaissance à la vie personnelle. On peut avoir une très, très grande connaissance. On peut être une encyclopédie bipède, vous savez, mais avoir une vie tout à fait désordonnée. C'est la connaissance, c'est pas une connaissance spéculative, c'est l'application de la connaissance à une vie personnelle. La Bible n'accorde pas beaucoup de valeur à la connaissance purement cérébrale. On ne connaît pas tant et aussi longtemps que cette connaissance n'a pas réformé nos vies. C'est pas pour rien, vous savez, qu'on appelle les anciens des anciens. C'est pas parce que Jésus n'avait pas d'autres mots à trouver, on va les appeler les anciens. On va les appeler les Achaïnes, les barbus dans l'hébreu, les longues barbes. Je ne veux pas dire nécessairement qu'il faut que la personne soit antique, hyper vieille, mais il y a un vécu là. Il y a d'abord eu une connaissance d'acquise Et cette connaissance-là, elle a été ensuite ramifiée, appliquée dans le vécu de la personne. Je peux dire que quelqu'un dans la trentaine ne peut pas être un ancien. Mais c'est bien pour un jeune ancien d'être avec des anciens plus vieux et de prendre un peu le modèle. Même pas mal le modèle. D'où l'impératif du verset 13. Qu'il montre, c'est un impératif, hein, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. La sagesse ou le manque de sagesse, ce n'est pas quelque chose de masqué. Ce n'est pas quelque chose de caché, mais ça se voit. Ça se voit, ça se manifeste dans le modus operandi, dans le modus vivendi, dans notre manière de vivre. Il est question ici d'œuvres de bonne conduite et de douceur. C'est bien ce que le texte nous dit, qu'il le démontre, hein, par sa bonne conduite et sa douceur. On va y revenir plus tard. J'aimerais seulement m'arrêter un moment ici sur l'expression « bonne conduite ». Le mot est intéressant parce que le mot usuel pour « bon » en grec, c'est « kalos ». C'est le mot qu'on emploie généralement pour parler de quelque chose de bon. Mais il y en a un autre mot qu'on emploie également, et c'est l'autre mot qui est employé ici. Le mot qu'on emploie généralement, c'est « agathos », qu'on emploie généralement pour dire que quelque chose est bon. Mais ici, Jacques emploie un autre mot, il emploie le mot « kalos », qui veut dire littéralement, qu'est-ce que ça veut dire, « lovely » par exemple, quelque chose d'attrayant, quelque chose de vraiment accrocheur, et quelque chose de grande valeur. De sorte que quelqu'un qui manifeste là, ce « kalos-là », il est comme une vitrine du Seigneur. Il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose d'attrayant, il y a quelque chose de seigneurial, si vous me passez l'expression. Qui se dégage de sa conduite. Et c'est la sagesse qui ne peut venir que d'en haut. Et quand, dans l'Épître de Jean, chapitre 3, le texte classique, là, qu'on utilise toujours pour dire qu'il faut naître de nouveau. Bien, naître de nouveau, littéralement, c'est naître d'en haut, c'est le mot « anothen ». En grec. On le traduit par « naître de nouveau », mais c'est le même mot qui est traduit par « d'en haut ». C'est le même mot que nous avons ici. Cette sagesse-là vient d'en haut. Alors, il va sans dire que des gens comme nous, qui sommes nés d'en haut, qui nous revendiquons d'être nés d'en haut, devrions effectivement tenter de carburer à la sagesse d'en haut. Nous avons ici, en synthèse, toute la différence entre la sagesse d'en haut et la sagesse d'en bas. Revenons au verset 15, qui décrit la sagesse d'en bas. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est, trois mots, terrestre, charnelle, diabolique. Hein, l'apôtre, pas l'apôtre, mais le frère du Seigneur, le demi-frère du Seigneur, ne fait pas dans la dentelle. Hein? Terrestre, charnelle, diabolique. Le croyant a trois ennemis, selon la parole, entre autres dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3, « Le monde, la chair et le diable. » Eh bien, nous avons les trois réunis ici, tout à fait à l'opposé de la sagesse qui vient d'en haut. Ça ne veut pas dire que le monde n'ait aucune rationalité et que tout ce que le monde fait soit négatif. Hein? Il y a beaucoup de connaissances dans ce monde et il y a beaucoup de connaissances dont nous, croyants, pouvons bénéficier. Lorsqu'on est malade, par exemple, on ne prend pas le bottin pour dire « est-ce qu'il y a un médecin chrétien autour? » Ou « lorsque notre voiture brise, est-ce qu'il y a un mécanicien chrétien autour? » On sait que pour les choses qui concernent la terre, ce monde, hein, les chrétiens font montre de beaucoup de sagesse. Ils demeurent naturellement à l'image de Dieu. Dans la parabole de l'économe infidèle, chapitre 16, verset 8, on lit ce qui suit. « Les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Hein? » Et c'est une réalité souvent de fois expérimentée. Les enfants de ce siècle prennent soin de leur peau, prennent soin de leur confort, veulent assurer leur avenir. Hein? Et il y a beaucoup de sagesse qu'ils investissent dans ce qui est terrestre, dans ce qui est charnel. Le mot « diabolique » nous apparaît un peu fort, mais ça demeure quand même sous l'emprise du diable. Ce vieux mensonge que Satan a refilé à Ève, vous serez comme des dieux. C'est ça qui fait la diabolie, vous savez. C'est que l'homme se pense le critère ultime, la référence finale en termes de sagesse. L'homme qui refuse de vivre comme un théonome, théos, nomos, sous la loi de Dieu, mais qui veut vivre comme un autonome, hein, autos, nomos, comme étant une loi en lui-même. Bien sûr que ce n'est aucunement inspiré par la crainte de Dieu. 1 Corinthiens 2,14 nous dit « Mais l'homme naturel, l'homme psychikos, l'homme animal, n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Donc, le monde fait des choses extraordinaires, des grandes découvertes, des inventions, etc., etc. Le monde peut aussi faire montre de raisonnements très intéressants. Le monde est articulé, vous savez. Hein? Il peut faire montre de raisonnements très intéressants, sauf que tôt ou tard, il va tomber dans l'irrationalité pour la simple raison qu'il ne peut demeurer rationnel, il est coupé de Dieu. Alors, tôt ou tard, lorsque son besoin d'engagement, lorsque son besoin de reconnaître son véritable statut entre en jeu, il va devenir irrationnel. Et c'est là où tout se joue. En termes de contraste d'origine, quelle est la différence entre la sagesse d'en haut et la sagesse d'en bas? Bien, la sagesse d'en bas vient de la raison. La sagesse d'en haut vient de la révélation. Tout un monde de différence dans cela. Lorsqu'on est limité à notre raison, on est limité à nos passions. On est limité à notre corruption pour la simple raison que nous croyons à la dépravation totale. Frère Augustin va vous en parler certainement dans notre réception de la confession de foi 1689. On croit à la dépravation totale. Notre raison est dépravée. Ça ne veut pas dire qu'on est aussi mauvais qu'on pourrait l'être. J'aime beaucoup l'expression de... Comment s'appelle-t-il, le monde qui est décédé, là? R.C. Sproul. Il parle de dépravation radicale. Le mot radical veut dire source. On est dépravé à la source. Donc, notre raison, elle est dépravée. Si on se repose dessus tôt ou tard, on va arriver avec des manifestations de dépravation. C'est la raison pour laquelle notre sagesse ne peut pas venir ultimement de notre raison, mais elle vient de la révélation. Nous savons que depuis la chute, donc, notre raison est dépravée. Pour retrouver son efficacité, notre raison doit opérer sous la gouverne de la révélation divine. Elle opère la raison, mais elle doit se soumettre à la révélation divine. Elle ne peut pas être l'appel ultime. C'est pas pour rien qu'Augustin, notre bon frère Augustin, disait « croire pour comprendre ». Vous voyez, pour restaurer, pour redonner un certain blason à la raison, elle doit se manifester sous la conduite de la foi. Sous la conduite de la révélation. Bon, certains diraient que Thomas d'Aquin dit davantage comprendre pour croire, c'est pas tout à fait exact, mais certainement que croire pour comprendre est tout à fait exact, n'est-ce pas? J'aime beaucoup l'illustration que Abraham Kuyper donnait à cet effet-là. Abraham Kuyper, si vous ne connaissez pas, vous allez le connaître plus tard parce qu'il est mort depuis longtemps, était président en Hollande, c'était un théologien, c'était un mathématicien, c'était un génie, hein? Kuyper. Il donnait comme illustration, ces génies-là sont fascinants parfois dans leur illustration. Il dit, la raison, c'est comme une lame de tondeuse à gazon. Si tu la mets trop haut, tu la tournes, mais tourne dans le vide. Il faut que tu la mettes au bon endroit. La raison, elle est utile, mais elle doit opérer sous la révélation. Lorsqu'on entre dans l'Église, on ne laisse pas notre raison au vestiaire, on l'amène avec nous, mais on la soumet toujours à la révélation, comme dans toute notre vie d'ailleurs. Et la révélation de Dieu s'inscrit parfaitement dans ce propos-là. Au livre du Deutéronome, chapitre 4, versets 5 et 6, nous lisons ce qui suit. « Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage, dont la raison opère sous la révélation. » L'origine de la véritable sagesse spirituelle, c'est Dieu. Jacques 1,5 nous dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Chercher cette sagesse ailleurs qu'en Dieu, c'est chercher en vain et c'est courir littéralement après les difficultés. Jérémie chapitre 2, verset 13, « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, pour se tourner et se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Et vous savez, on dit que ça se passe dans le monde, ce manque de sagesse-là, mais nous ne sommes pas immunisés nous-mêmes contre un manque très, très fréquent de sagesse. D'ailleurs, on est loin de l'avoir à l'infini. On grandit dedans. Rappelons-nous un incident un peu étonnant qui ne concerne pas le moindre des chrétiens, qui concerne l'apôtre Pierre. Le Seigneur Jésus est en train de leur parler, n'est-ce pas, dans Matthieu 16, versets 22 et 23. Le Seigneur leur dit qu'il va souffrir, etc., qu'il va être livré, qu'il va avoir toutes sortes de tortures, et finalement qu'il va mourir aux mains des méchants. Que lui répond l'apôtre Pierre? Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise! À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, terrestre, charnel, diabolique. Seigneur, tu ne peux pas nous quitter comme ça. Ça ne peut pas t'arriver. » Vous voyez, le manque de sagesse qui repose sur la raison humaine. Et ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tous les croyants. Et ça nous arrive sur une base régulière. On a besoin constamment de grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ et dans cette sagesse-là. Mon deuxième point, le contraste dans l'opération. En raison du contraste dans leur origine, il va sans dire qu'il y a un grand contraste également dans l'opération de ces deux sagesses-là, celle d'en haut et celle d'en bas. Quelles sont les évidences de la fausse sagesse? Bien déjà, on a eu une bonne entrée en matière. Après la triade du verset 15, terrestre, charnel, diabolique, c'est déjà pas mal comme CV, on pourrait être porté à croire que la sagesse d'en bas est simple à reconnaître. Mais attention, ce n'est pas toujours le cas. C'est en fait rarement le cas. Jacques ne nous donne pas une formule tout compris pour déterminer immédiatement ce qui est sage et ce qui ne l'est pas. C'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. La fausse sagesse, tout comme la sagesse d'en haut, se révèle comment? Se révèle par ce qu'elle produit. L'illustration que j'aime bien utiliser, elle est vieille comme la Terre, oui, à peu près, mais je l'aime beaucoup, c'est celle du Titanic et de l'Arche de Noé. Hein? Deux sagesses en action. Des gens extrêmement sages, les plus grands experts de l'époque, qui ont construit le Titanic. C'est pour ça qu'on pouvait écrire avec arrogance, ni Dieu ni diable. On était convaincus d'avoir atteint le sommet, on avait mis sur le meilleur. Pourtant, il a coulé à pic. L'Arche de Noé était faite par un amateur. Noé. Au niveau de la construction maritime, on ne tombe pas dans un spécialiste. Il a construit par la révélation et il a traversé le déluge. Vous voyez? La révélation de Dieu nous rend infiniment plus sages, plus intelligents, que les plus grands experts scientifiques limités uniquement à leur raison. Quelles sont donc les évidences de la fausse sagesse? Bien, Jacques nous la révèle en capsule d'ailleurs au verset 16. Car là où il y a un zèle amer, on pourrait traduire aussi par envie, là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. C'est un chef-d'œuvre de condensé. Ce qui nous est dit ici, c'est que le résultat de la fausse sagesse, le résultat de la sagesse d'en bas, sans la grâce du Saint-Esprit, révèle sa posture par son état de jalousie, d'ambition personnelle, de division, de désordre et d'impiété. Quand vous avez tout ça mis ensemble, vous êtes dans la sagesse d'en bas. Jacques nous dit, Paul nous dit, Jésus nous dit, les proverbes nous disent, toute la Bible nous dit qu'il n'y a pas de vraie sagesse dans une personne qui cherche à établir son petit royaume personnel. Qui veut servir sa petite personne, même si c'est fait au nom de Jésus, même si c'est fait dans l'Église. Voyez-vous, nous sommes tous à l'œuvre dans l'avancement d'un royaume. Quel royaume est-ce qu'on veut faire avancer? Notre royaume personnel ou le royaume de Dieu, il n'y en a pas d'autre. Quelqu'un qui ne se soumet pas lui-même, quelqu'un qui ne renonce pas lui-même, quelqu'un qui ne se donne pas pour le service de Dieu et de ses frères, ne connaît pas la vraie sagesse. Quels sont les quatre éléments que nous retrouvons au verset 16? Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Bien sûr, des deux premiers, zèle amer et esprit de dispute, viennent les conséquences incontournables, viennent le désordre et les mauvaises actions. Et ces deux éléments-là, zèle amer et esprit de dispute, ne sont rien d'autre qu'une question de cœur. De la même manière que le cœur dirige le discours, comme on l'a vu dans les versets 1 à 12, le cœur dirige aussi la motivation dans nos actions. Un zèle amer. Et Jacques le mentionne à deux reprises, au verset 14 et au verset 16. Le zèle amer, c'est l'envie. L'envie, c'est l'ennemi de la vie chrétienne. L'envie, c'est l'opposé de la grâce parce que l'envie veut recevoir plutôt que de donner. L'envie, c'est l'opposé du soin aux nécessiteux, car l'envie ne voit que sa propre petite personne, que ses propres petits besoins personnels. Vous savez, c'est facile de partir, comme on dit en anglais, sur un ego trip. Sous le couvert du zèle spirituel, les pharisiens étaient très zélés pour leur propre gloire. Est-ce que mon zèle est spirituel ou charnel? Quelle est ma réaction face au succès ou aux échecs des autres? L'envie travaille toujours à la réception, jamais à l'expédition. Vous êtes familier avec la vieille expression WIIFM, What's in it for me? Y a-t-il quelque chose là-dedans pour moi? Le deuxième élément étroitement lié à la sagesse humaine, c'est l'esprit de dispute. L'esprit de dispute. L'esprit de dispute. L'esprit de dispute. Est-ce que ça existe, ça, l'esprit de dispute? Ça n'existe pas uniquement dans le monde, malheureusement, ça existe aussi dans l'Église. Parce que notre dépravation, avant qu'elle soit complètement remédiée subjectivement, elle a encore bien des manifestations. On connaît tous des personnes, on connaît tous ce genre de personnes. Il y en a qui sont particulièrement douées pour l'esprit de dispute. On les retrouve partout au travail, dans la société, dans la famille, dans le couple, dans l'Église. Il suffit de dire quelque chose et vous êtes assuré qu'ils ne sont jamais d'accord. Les chefs de position, assurés qu'immédiatement, ils vont vous trouver toute une série d'arguments bien articulés pour vous montrer que vous n'êtes pas d'accord, et il s'ensuit des discussions stériles et des discussions sans fin, où il est même difficile d'avoir la parole. Ils veulent se valoriser, semble-t-il, au moins, en partie, en imposant leur point de vue. Et c'est une attitude qui ne laisse pas beaucoup de place aux autres et qui n'est pas construite sur l'humilité. Proverbe 11:2 nous dit « Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. » Ces gens-là n'admettent pas leur tort. Plutôt que de confesser humblement ce qu'ils ont fait, plutôt que de confesser humblement qu'ils sont en grande partie la raison des difficultés, ils vont se présenter en victimes. Là, ils s'en vont, ils se plaignent et se font plaindre. Vous remarquez cela? C'est d'un pathétique à se gargariser, mais c'est la réalité. Ne pas être en accord avec eux, ça devient un crime de lèse-majesté. Le jugement de la parole de Dieu est clair au verset 14. « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. » Si c'est le contenu de votre cœur, cessez de vous vanter. Cessez de penser que vous êtes la référence ultime. Ce serait mentir contre la vérité. Loin de produire le fruit de l'esprit, cette attitude, cette disposition produit les œuvres de la chair qu'on retrouve en Galates chapitre 5. Je vous en mentionne quelques-uns. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont, entre autres, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est sérieux comme business. Venons-en maintenant à la sagesse d'en haut, qui se veut toute vertu, somme toute, hein? En fait, nous avons 8 éléments au verset 13 et 17. Et ce que nous y avons, ce n'est rien d'autre que le fruit de l'esprit, ce n'est plus les œuvres de la chair, c'est le fruit de l'esprit. Galates 5, 22, 26. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Bien-aimés, si chaque fois que nous nous retrouvons dans une situation tendue dans l'Église, si on s'arrêtait pour revoir ces versets-là, les relire ensemble, même avec les parties opposées, vous savez, les prier ensemble, est-ce que le discours ne prendrait pas une autre tournure? Même dans les familles, même dans les couples, même dans la société, vous voyez, si on était conscient de cela, notre propre attitude aurait une toute autre dimension. Notre propre comportement deviendrait agathos et kalos, deviendrait très beau, très attrayant. On serait une vitrine du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous soit en aide là-dedans. Donc, le tout commence au verset 13 avec la douceur dont on a parlé précédemment. Et au verset 17, nous avons tout l'éventail en vrac. La sagesse d'en haut est premièrement pure. C'est-à-dire qu'elle dégage une sainteté. Elle dégage une étroite relation avec le Seigneur. Lorsque vous approchez quelqu'un qui a la sagesse d'en haut, vous vous sentez en confiance. Hein, ça transpire de la personne. Dans un deuxième temps, il nous est dit qu'elle est pacifique. La sagesse d'en bas, elle conduit à la compétition, aux rivalités. Ce qui n'est aucunement le cas pour la sagesse d'en haut, qui opère sous la gouverne du prince de la paix, du prince du shalom. Ça ne signifie pas l'absence de difficultés, ça ne signifie pas l'absence de conflits occasionnels, car la paix ne peut pas subsister hors de la vérité. Et parfois, pour garder la vérité, il faut mettre le pied par terre. Hein? Le péché et l'injustice ne peuvent demeurer cachés ou glisser sous le tapis sans qu'il y ait des conséquences. J'ai dit ensuite que la sagesse d'en haut, elle est modérée. La modération ne veut aucunement dire vivre dans le compromis, « Ah, j'accepte tout, je dis toujours oui, comme ça, il n'y a pas de chicane, pas du tout. » La modération ne veut aucunement dire vivre dans le compromis, mais elle décrit l'attitude de la marche chrétienne. Prendre le temps de bien comprendre et de bien doser mes interventions. Le problème n'est pas ce qu'on dit. Très souvent, le problème est dans notre manière de dire. Et dans le ton. C'est la raison pour laquelle, parfois, quand des gens ne veulent pas s'entendre, on dit « écrivez-vous à la place. » Parce que c'est plus difficile. Quand on écrit, il n'y a pas de ton au moins dedans. Vous voyez? Déjà, ça fait baisser un peu la réactivité. Ne pas être un explosif, un hyper-spontané qui réfléchit uniquement après coup. La sagesse d'en haut, elle est par ailleurs conciliante. Elle fait en sorte qu'il est agréable de côtoyer une telle personne. On peut être en désaccord avec elle, mais cette personne-là, même en désaccord, demeure agréable. Et on n'est pas obligé de commencer à lever les baguettes et à entrer dans toutes sortes de conflits. Même dans un désaccord, on est capable de s'expliquer de manière civilisée. Elle est conciliante, la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut, elle est aussi pleine de miséricorde. L'expression dit bien qu'elle dit ce qu'elle dit. Non seulement est-elle miséricordieuse, mais elle est pleine de miséricorde et de bons fruits. Elle est contrôlée, elle est conduite par la miséricorde. Ses œuvres sont des œuvres de miséricorde. Quel beau mot, le mot miséricorde, hein? Je reviens toujours là-dessus, misericardia en latin, qui veut dire un cœur pour la misère. Elle a un cœur pour la misère, la sagesse d'en haut. Luc 6, 36 nous dit « Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. » Michée 7, 18, « Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. C'est le carburant de nos relations les uns avec les autres. On ne vient pas de tout régler, parce qu'encore une fois, au nom de la vérité, parfois, il va falloir, dans la miséricorde, prendre des positions un petit peu plus radicales, mais toujours dans un bon esprit. Nous est dit en plus que la sagesse d'en haut, elle est exempte de duplicité et d'hypocrisie. C'est quelqu'un de vrai. Quelqu'un qui carbure à la sagesse d'en haut, là, c'est quelqu'un de vrai. Il ne cherche plus à jouer un rôle, à montrer ce qu'il n'est pas. La repentance l'a amené à être authentique. Quand Shakespeare disait « Le monde est un grand théâtre et nous sommes toujours en représentation », il avait pas mal raison en réalité. On se lève le matin, on se met, on se déguise, il faut qu'on se lave, puis on place sur des petites couettes. Puis, c'est important, quoi. On prépare notre numéro. Et là, on voit l'extérieur et on est toujours un peu théâtral. On dit toujours on est différent à l'extérieur de la maison. On est la même personne. C'est qu'à l'extérieur, on n'est pas notre vraie personne. À la maison, on est notre vraie personne. Paul Tournier disait le personnage devant la personne. C'est un fait. On met souvent un personnage devant notre personne. Personnage qu'on voudrait être ou qu'on voudrait que les autres voient, que les autres dégagent. Nous ne sommes pas de ces postmodernes qui veulent se donner une identité bien-aimée. La sagesse d'en haut est exempte de duplicité et d'hypocrisie. Et ça me mène à mon troisième point, le contraste dans le résultat. L'origine détermine le résultat, à votre choix. Pour la sagesse mondaine, les résultats seront mondains. Verset 16. Là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Donc, quand il y a du désordre et des mauvaises actions, ça vient d'où? On est toute une gang de spirituels, mais bon, il est arrivé ça. C'est parce qu'il y a eu de la sagesse d'en bas qui a pris le trône, qui a occupé plus de place que faire ne se devait. Et ça s'est tourné ainsi. Hein? Ça a tourné au vinaigre, comme ça, désordre et mauvaise action. Commençons par regarder autour de nous au monde. Comment ça va dans le monde? Le monde est en conflit constant. Le monde est en compétition. Le monde s'interaccuse. Le monde tente de prendre avantage des autres, etc., etc. L'Église ne fait pas exception, vous savez. Lorsque la sagesse du monde entre dans l'Église, tôt ou tard, et plus tôt que tard, il y aura du désordre et des mauvaises actions. Vous savez, quand on lit l'histoire de l'Église, on se dit, on va avoir beaucoup à se repentir devant le Seigneur. Le nombre de divisions qui a eu cours. Oui, on blâme une certaine religion hyper mondiale, déconnectée un peu, mais quand même, hein, parce qu'ils ont tout fait pour demeurer ensemble, etc., etc. Mais nous, évangéliques, qui avons voulu retrouver la vérité, puis gloire à Dieu qu'il en fut ainsi, mais combien de divisions inutiles ont eu cours? Il y a eu des divisions utiles, parce qu'il y a une place pour la division. Mais combien de divisions inutiles suggérées, conduites par la sagesse d'en bas? Le mot traduit par désordre parle d'instabilité, parle de soulèvement. En fait, on retrouve le même mot dans Luc 21:9. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, c'est le même mot que désordre ici. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. L'envie, l'esprit de dispute, la formation de clans met la table pour le dérèglement. Pour qu'une Église demeure stable, pour qu'une Église se mette à l'abri des soulèvements, il y a une nécessité, il y a un impératif que son ministère soit mesuré par la parole de Dieu, jamais par la sagesse des hommes ou la pseudo-sagesse des hommes. À quel point c'est attristant de voir dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ toutes ces luttes intestines, ces divisions, l'absence de pureté et de paix. Où est la sagesse qui vient d'en haut dans tout cela? Une Église, c'est un groupe de croyants sauvés par le même Seigneur, par la même grâce, par le même sacrifice, ayant passé par le même baptême, professant la même confession de foi, œuvrant pour le même royaume. Où est l'erreur? Lorsque la sagesse d'en bas prend le pas sur celle d'en haut, la donne vient de changer. Le désordre s'installe avec son lot de mauvaises actions. Notre texte se termine avec la pensée du verset 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Voilà donc que Jacques revient avec le beau mot final, le fruit. Ce n'est pas, non pas l'œuvre, mais le fruit. Parce que la sagesse, c'est un fruit de l'esprit. Ce n'est pas quelque chose qu'on invente, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend. C'est quelque chose qu'on reçoit et qui se développe progressivement en nous. La justice, ce n'est pas notre œuvre. C'est celle qui nous a été acquise par le Christ Jésus. On est loin du résultat humain, hein? Ici, le fruit n'est pas semé dans un zèle amer ou dans un esprit de dispute, mais dans la paix, pour et par la paix, pour ceux qui recherchent la paix. Ce que nous sommes, c'est ce que nous vivons. Et ce que nous vivons, c'est ce que nous semons. Et ce que nous semons détermine ce que nous récolterons. C'est le message que Dieu a pour nous aujourd'hui, frères et sœurs. C'est une chose très sérieuse que d'être des fauteurs de troubles dans la famille de Dieu. D'ailleurs, l'un des péchés que Dieu ne peut blairer, c'est la semence de la discorde parmi les frères. Proverbes chapitre 6, verset 16 et verset 19. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Et c'est quoi la 7e? Le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Puisse le Seigneur faire de nous des ouvriers de paix à sa plus grande gloire. Au nom du Christ Jésus. Amen.